On a chanté des chants qui appellent à ce que Dieu nous parle. Il y a vraiment ce... C'était peut-être l'accent fort de se dire, mais on est prêt à écouter. On est prêt à écouter ce que Dieu dit. Quelle disposition de cœur. C'est peut-être pas toujours facile à le dire, à le proclamer. En tout cas, déjà par le chant. Et c'est vrai, ça rejoint ce livre des Proverbes qu'on a parcouru un peu, en tout cas, la première partie des Proverbes qu'on a parcouru cet été. Ce matin, je vous propose de clore cette première série. On a vu les 8 premiers chapitres, en tout cas, on aura vu tout à l'heure jusqu'au chapitre 8. Et c'est la première partie du livre des Proverbes qui introduit le livre. Et pour ceux qui sont dans la lecture de la semaine, vous avez peut-être remarqué que après le chapitre 9, on rentre véritablement dans les proverbes, dans les encouragements, dans des paroles de sagesse qui peuvent nous accompagner tous les jours. Alors ce livre des Proverbes nous parle de la sagesse de Dieu. Et les proverbes ont été rédigés pour la plus grande part par le roi Salomon, un roi qui a été reconnu comme sage, qui a reçu cette sagesse de Dieu. Alors ce livre est là pour nous donner, pour nous encourager à acquérir de la sagesse. Alors la sagesse, c'est pas de la connaissance, c'est pas une aptitude, mais c'est une connaissance qui est mise en œuvre, qui est appliquée. C'est l'art de vivre selon Dieu, c'est vivre pour Dieu, vivre comme Dieu le souhaite. Dans ces premiers chapitres, dans ces 9 premiers chapitres, on retrouve 10 discours, notamment d'un père à son fils, où il encourage son fils à faire de cette sagesse, à faire de la crainte de Dieu ses priorités de sa vie. La sagesse de Dieu, c'est apprendre à bien vivre dans le monde de Dieu et ça veut dire dans le monde d'aujourd'hui. Alors ce matin, on est à la fin, on va voir 2 chapitres où on va voir 2 voix qui vont nous interpeller. 2 sons de cloche très distincts. L'une de l'autre. Alors, moi j'ai parfois l'habitude de faire des achats sur Internet, et je regarde de temps en temps, suivant le produit, les avis qui sont postés. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, il y a 2 avis très différents, très contraires. Un qui va vous dire que ce produit est défectueux, il n'est pas compatible, et que etc., etc. Et puis de l'autre, client tout à fait satisfait, reconnaissant, qui répond à ses besoins. 2 choses différentes. Et dans ces chapitres 7 et 8 qu'on va lire, qu'on va parcourir, on va justement avoir ce contraste très saisissant entre 2 voix, 2 invitations qui vont être diamétralement opposées. Et vous allez vous en rendre compte. Au chapitre 7, on a toujours cet appel du Père qui veut nous faire entendre d'ailleurs la voix d'une femme adultère, séduisante. Et le chapitre 8, on va entendre pas en réponse, mais presque en contraste, la voix de la sagesse qui va inviter à écouter et à suivre son chemin. C'est la sagesse qui est un peu personnifiée. On a dame sagesse, on pourrait dire, et puis la femme adultère de l'autre. Et vous verrez que dans ces 2 chapitres, on va retrouver tout le vocabulaire qu'on a déjà un peu entendu, vu dans ces premiers chapitres des proverbes, des exhortations qu'on a déjà entendues. On retrouvera du vocabulaire d'ailleurs similaire aussi dans les 2 échanges. Et avant de prendre le premier chapitre, voilà comment je résumerai un peu ces 2 chapitres ce matin. C'est « Garde-toi de la voix sans issue et écoute la voix bienfaisante, on pourrait dire édifiante, de Dieu. Garde-toi de la voix qui est sans issue et écoute la voix bienfaisante, édifiante de Dieu. » Alors, je vous encourage à prendre vos Bibles sous vos yeux pour lire ce chapitre 7 des Proverbes. Je donne comme titre à ce chapitre « La voie sans issue ». Vous avez remarqué, les 5 premiers versets, on retrouve cet appel que j'évoquais tout à l'heure, d'un père qui invite son fils à écouter et à retenir ses conseils, ses enseignements, ses paroles. Et vous l'avez vu, au centre de ce chapitre, on a une histoire que ce père raconte. Vous l'avez vu, il est un habile conteur. Il y a une véritable mise en scène et fur et à mesure la tension monte pour atteindre un point culminant et une fin soudaine et terrible. Et puis à la fin, on a de nouveau cette exhortation qui reprend l'idée centrale de cette histoire. Alors, c'est vrai, la première partie, le père encourage à garder précieusement ses paroles. Retenir, garder, plus de 4 fois là dans quelques versets, cet homme encourage son fils à retenir, à garder, à s'attacher, à s'imprégner intimement des enseignements, des commandements qu'il lui a laissés, et d'y trouver vie, d'y trouver plaisir. Il demande à ce qu'il les garde tellement intimement, de les écrire profondément sur les tables du cœur. Là, on retrouve ce qu'on avait évoqué avec le cœur. La sagesse de Dieu vise le cœur. L'écoute de Dieu vise le cœur. Enracine-les profondément dans ton cœur. La sagesse de Dieu doit venir transformer ce cœur-là. Et cette voix de la sagesse doit devenir tellement intime que ce père en parle comme une sœur, comme une amie, comme quelque chose d'intime, de précieux. Et cette proximité et cet attachement à garder ces paroles de sagesse doit permettre, et c'est la fin un peu de cette petite portion d'introduction, doit permettre au fils de se tenir loin de la mauvaise voie, loin de la voie qui souhaite l'égarer, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'inconnu au discours flatteur. On l'avait vu hein, dans les proverbes, il y a cette présentation toujours de ces deux chemins. Le chemin de la sagesse et le chemin de la folie qui veut nous égarer loin de Dieu. Et nous sommes appelés à garder précieusement les paroles de sagesse, les paroles de Dieu, pour nous préserver d'une voie sans issue. Et du coup, on est au cœur de ce chapitre, c'est « Écoute cette histoire !» On le voit, c'est au travers de la voix du Père qui regarde à travers la fenêtre, hein, vous l'avez remarqué, il dresse le tableau, il voit dehors, c'est l'obscurité qui commence à apparaître, c'est la rue, on est témoin de l'histoire, on nous plante le décor, on voit le public qui est ciblé, on voit c'est un jeune homme qui traîne au cœur, un garçon, hein, le verset 7 nous dit, un garçon dépourvu de bon sens, d'autres traductions, on manque d'expérience, manque de sagesse, manque de discernement. Et cet homme, ce jeune homme, se dirige lentement vers une de ses femmes adultères, verset 8. Et petit à petit, le danger se précise. On voit que cette femme parle, interpelle, elle est habillée comme une prostituée, nous dit verset 10, mais elle est mariée, tiens. C'est une scène très bruyante, elle ne tient pas en place cette voix. Elle saisit le jeune homme, l'embrasse, lui parle, elle séduit, on dit qu'il le prend dans son filet. D'ailleurs, on le voit que tous les sens de ce jeune homme sont attirés. Elle la voit, Louis, elle le touche, elle l'embrasse, elle lui fait miroiter des choses. Et de l'autre, on a un jeune homme qui ne dit aucun mot. Ça, c'est... Il est silencieux. Et sans rentrer dans le détail de ce texte, on voit que cette voix trompe. Elle trompe. Elle parle de rituels religieux, verset 19. Elle invite ce jeune homme à s'enivrer d'amour alors qu'elle est mariée. Alors qu'elle évoque son mari absent. Le verset 10 nous dit clairement qu'elle a la ruse dans le cœur. Ses désirs sont pervers. Je relis le verset 21. Elle l'a attiré à force de persuasion. Elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. Et la force de cette histoire, la force des proverbes, c'est justement de montrer la tentation, la flatterie de cette voix qui ne mène à rien. La tentation du mal. Quelque part, c'est aussi à nous, lecteurs, à nous de reconnaître qu'il y a ces chemins de travers, ces chemins sans issue, à nous de nous y garder, à y résister. Et ici, dans l'histoire, le jeune ne résiste pas. Un point de non-retour est atteint. Verset 22, il s'est, tout à coup, mis à le suivre. Ça a fait du chemin dans son cœur, et les conséquences sont désastreuses. Je poursuis hein, la fin de ce verset 22. Il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui transperce. Il est pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège. Son sort de ce jeune homme est comparé à celui d'un animal qu'on mène à l'abattoir. Sa fin, il est sans issue. Tombe dans un précipice, on pourrait dire. On assiste là, comme un peu sans ressources, à ce déroulement dramatique de la scène. Écoute cette histoire. Voilà comment cette voix veut t'attirer loin de la sagesse de Dieu. Et du coup, ce père bienveillant rappelle, et c'est la fin, hein, exhorte, détourne-toi de cette voix. On retrouve cette interpellation du père, mais même pas juste à son fils, mais d'ailleurs il s'adresse, ses fils, mes fils, écoutez-moi. On a l'impression qu'il y a de l'émotion là-dedans. Quand il raconte cette histoire, il voit le drame qui est en train de se jouer, et se dit, mais écoutez. Écoute, protège ton cœur. Ne t'égare pas sur ce chemin sans issue, sur ce chemin de folie que je viens de décrire. N'écoute pas une telle voix, ne t'y perds pas. Écarte-toi, n'emprunte pas ce chemin. Et là, il présente que, en fait, cette femme va faire plein de nombreuses victimes. C'est vraiment l'impasse de cette voix. Je relis les versets 26 à 27. En effet, elle a fait beaucoup de victimes. Ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a détruits. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts qui descend vers les chambres de la mort. Ce père est en train de rappeler à son fils de s'écarter d'une voie sans issue, de s'écarter de la voie de la folie, parce qu'elle détruit, parce qu'elle entraîne à la mort, parce qu'elle est sans issue. Alors je me suis dit, que faire de ce chapitre ? On a l'impression qu'il s'adresse au jeune homme, qui doivent se garder d'une femme adultère. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde qui tourne en dérision ce côté, si on prend strictement du texte, de l'adultère. On est libre. Parler d'adultère, c'est mettre certaines vérités au cœur de nos vies. Ça veut dire qu'il y a un sens au mariage, de l'attachement mutuel, réciproque, réservé. D'ailleurs, on peut remarquer que les questions les plus vives, qui sont le plus sujet à débat aujourd'hui dans notre société, concernent des sujets autour de cette identité de l'homme, de la femme, et de tout ce que cela comporte. L'identité, la question des genres, hein, homme-femme, de la sexualité, la question du mariage, et touche cet aspect-là de cette relation que Dieu a souhaité entre l'homme et la femme. Et c'est vrai, le livre des Proverbes, et je crois que vous l'avez déjà vu avec Yvan au chapitre 5, insiste sur cette question d'examiner sérieusement la tentation de l'adultère, d'examiner sérieusement cette question d'être attiré et de, au contraire, privilégier la beauté de la fidélité conjugale. Parce que ce domaine-là illustre de façon peut-être assez radicale ces deux chemins, ce chemin qui écoute Dieu et ce chemin qui veut faire à sa tête ou à sa folie. On est bien trop humain pour négliger cette interpellation de garder nos cœurs, de garder nos pensées, de nous garder de la séduction, de nous garder des discours flatteurs, de nous garder des plaisirs que nous offre le monde, qui sortent de ce cadre que le Seigneur a posé dans l'Écriture. Une voix qui s'égare, une voix qui s'y prête, c'est exposer notre cœur au danger d'une voie sans issue. Il suffit parfois de regarder simplement des images sexuellement explicites, nourrir des fantasmes, sans avoir besoin de passer à l'acte comme ce jeune homme. Il y a tant et tant de choses qu'on peut nourrir dans nos cœurs, un regard sur un décolleté, etc. Un film, une publicité. Bien évidemment, le texte parle de cette tentation sexuelle, cette mise en garde contre l'impureté, contre cette voie qui pense être sage, qui pense nous donner bonheur, qui en fait nous éloigne de la sagesse de Dieu. Mes amis, mais il y a quantité de sujets qui nous éloignent de la voie de Dieu. Quantité de sujets. Il y a bien des luttes spirituelles, des péchés qu'on alimente dans nos cœurs, auxquels on doit faire face, qui nous éloignent de la sagesse de Dieu. On a des luttes intérieures, parce que le péché, on peut aimer ça. Ça peut être la convoitise dans le domaine matériel, le travail, l'argent, et bien d'autres choses, la famille. Je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle, parce que dans la parole de Dieu, Dieu a souvent condamné son peuple comme un adultère lorsqu'il a oublié d'écouter Dieu. En fait, on est simplement adultère lorsqu'on oublie, lorsqu'on se détourne d'écouter Dieu, d'écouter la voix de Dieu, celui qui s'attache à sa propre voix, celui qui s'attache à la voix des hommes et qui s'affranchit de la sagesse de Dieu est considéré comme Dieu comme adultère. Et la conclusion de ce chapitre est sans appel, laissez place à ce compromis, laissez place à cette voie, c'est une voie sans issue, elle mène à votre perte. Alors ne négligeons pas d'écouter cette voix du Père, qui sait ce qu'il y a de bon pour nous. Alors je vous propose de poursuivre avec le chapitre 8 où on va entendre une autre voix. Il y a beaucoup de choses dans ce chapitre 8, vous l'avez vu, il est beau, il est en contraste fort. Et j'ai intitulé comme titre à ce chapitre « La voix bienfaisante de Dieu ». Bienfaisante de Dieu. On fait un grand saut entre cette femme adultère et cette voix de la sagesse. Deux femmes, on pourrait dire, qui nous appellent à écouter, qui nous appellent à suivre, mais dont les conséquences sont différentes. On voit ici la voie de la sagesse qui offre la vie à de nombreuses personnes. Vous le voyez dans le texte, il y a une introduction. Voilà, on le voit, c'est une voix qui crie, qui veut interpeller le maximum de personnes. On voit non pas au centre du texte, non pas une histoire, mais un discours. On voit que la sagesse nous interpelle. Et il y a trois parties, et ça fait écho à ce chapitre 7. Et on retrouve enfin aussi encore un écho final. On voit vraiment dans ce discours la bienfaisance, la beauté de la sagesse de Dieu qui se révèle à l'homme, qui nous appelle à nous émerveiller. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit, cette sagesse? Ben on voit qu'il y a une qualité de cette voix. Parce que cette voix nous appelle aussi à l'écouter, à suivre ses paroles. Et elle s'adresse à chacun, à tous les êtres humains. C'est vous que j'appelle. D'ailleurs, elle pointe du doigt un peu ceux qui manquent d'expérience. Les stupides, elle dit bien. Ce jeune homme qui s'est pris les doigts dans le piège de la femme adultère. Voilà qui elle s'adresse. Mais je crois qu'elle s'adresse à chacun de nous, afin d'être orienté sur ce droit chemin. Et vous le voyez dans ces versets 4 à 11, combien elle développe la confiance qu'on peut avoir de ses paroles. Il y a quelque chose de capital. Il est question de bon sens, il est question de droiture, il est question de vérité, verset 6, il est question de justice, de paroles exactes, de paroles droites. Il y a rien de faux, il n'y a rien de perverti. Dans tout son vocabulaire, on voit la qualité de cette voix. C'est une voix qu'on peut écouter avec sagesse parce qu'elle est droite. Tout le contraire de la voix de tromperie du chapitre 7. Et la qualité de ses paroles est comparée même avec de l'or et de l'argent. Cette voix est d'une grande valeur. Déjà au chapitre 3, on l'avait entendu, la sagesse a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. On a les mêmes mots ici au verset 11. Le message de cette voix est clair. Écoutez-moi, j'ai des paroles de vérité. Une vérité bien plus précieuse que vous ne pouvez trouver ou écouter quelque part. Cette parole a bien plus de valeur que tout ce que vous allez pouvoir trouver dans ce monde. Elle ne vous trompe pas. Elle ne vous égare pas. Elle est la vérité. Elle est bonne pour vous. Ça, on le voit dans ces quelques versets. Il y a la qualité de cette voix. Parce que c'est le deuxième aspect de son discours. Il y a des bienfaits de cette voix. Il y a des bienfaits qu'elle procure. Et d'ailleurs, ces bienfaits sont liés, on le voit au verset 13, à la crainte de Dieu. Elle est en accord avec tout ce que les proverbes a développé. Cette crainte de Dieu, cette vie qui prend en considération Dieu dans sa vie. En fait, de prendre Dieu dans sa vie, c'est la ligne de démarcation, on pourrait dire, entre la sagesse et la folie. Entre la sagesse de Dieu, entre cette voie droite et cette voie tortueuse qui mène à la ruine. Parce que cette crainte de Dieu, c'est détester le mal, on le voit, l'arrogance, l'orgueil. La bouche perverse. Alors cette sagesse, elle nous liste, je vous liste juste, je vous invite à le lire, à le méditer chez vous, un certain nombre de bienfaits. Il est question de bons conseils, verset 14. Il est question d'un jugement qui est sain. Il est question d'intelligence. Il est question de force morale. Il est question de la capacité de diriger, parce qu'on fait le lien avec les grands et ceux qui dirigent. L'habilité. On parle d'amitié. On parle d'un accès à celui qui le cherche, qui la cherche. On parle de bien durable. On parle de caractère qui vaut mieux que l'or ou l'argent. J'aimerais juste qu'on regarde ce verset 17 qui est presque un verset clé. Cette sagesse qui dit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. » Ceux qui me cherchent me trouvent. C'est un verset, un passage, une idée qui parcourt l'Écriture. Celui qui cherche la sagesse de Dieu, celui qui cherche à écouter Dieu, le trouve. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cette sagesse se cherche trouver. C'est un bienfait. Il se cherche trouver. À travers toute la Bible, nous trouvons un Dieu qui interpelle, qui appelle les hommes et qui promet bien et bien des bénédictions et des bienveillances à celui qui écoute sa voix. Et c'est vrai, par sa grâce, nous le trouvons. Dieu se laisse trouver. Notre Créateur s'approche de nous. Et bien plus, hein, c'est ce que dit aussi ce verset, il nous aime. Il y a la question de son amour. Les bienfaits qui sont attachés à cette voie de la sagesse sont liés à l'amour que Dieu porte aux hommes. Des trésors. Et je trouve, c'est tout le contraste aussi avec la première voie sans issue. On voit que c'est des biens, dans la dernière portion, des bienfaits qui durent. Il est question d'héritage, de trésors. D'ailleurs, on a du mal à démêler entre des bienfaits spirituels et même des bienfaits matériels, des bienfaits tout humains. Voilà les bienfaits, nous dit cette voix de celui qui s'attache, qui écoute la voix de Dieu. Ils ne sont ni volés à un autre, ils sont ni éphémères. Tout le contraire de celui d'avant. Mais ce qui est aussi fort dans ce discours, et c'est la suite, il parle de l'identité de cette voix, d'où elle vient. On est dans la troisième portion, à partir du verset 22 au 31, et il y a quelque chose de glorieux. Parce que cette sagesse qui interpelle ici, dans les proverbes, affirme que cette sagesse était déjà là, avec Dieu, avant la création du monde. Alors, c'est chouette parce que on pourrait se dire, bon, les proverbes, ces paroles de sagesse qui nous appellent à être écoutés, c'est la compilation de cette sagesse, de cette expérience des hommes qu'ils auraient compilée au travers les siècles. Alors bien évidemment, oui, de cette relation avec Dieu. Mais on voit que cette sagesse existait bien avant. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes, verset 22. Wow. Et vous l'avez vu avec quelle poésie, hein. Il nous rappelle avant que les nuages soient en place, avant que le trait soit tracé, etc. Je fus là, avant que le ciel fût disposé. Voilà la voix de cette sagesse, qui était là à l'origine. Elle mérite d'être écoutée. Où étions-nous lorsque Dieu a fondé ce monde ? La sagesse de Dieu était présente à ce moment-là. Lorsqu'il nous a créés, cette sagesse de Dieu était présente. Ça mérite de l'écouter. Relise avec moi le verset 30-31. J'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur la terre et trouvant mon plaisir parmi les hommes. D'imaginer que la sagesse de Dieu était présente à ce moment-là, ça fait écho. Ça fait écho de façon assez formidable et beaucoup de commentateurs des proverbes le disent à Jésus-Christ. Par exemple, Jean, l'apôtre Jean, quand il dit dans son prologue, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il est question de Christ lorsque Jean parle de cela. Ici, il est question de la sagesse de Dieu. On fait vite le raccourci. La sagesse de Dieu, c'est Christ, cette incarnation. La sagesse est le maître d'œuvre à côté de Dieu. Et c'est vrai qu'on découvre tout au long de l'Écriture que cette sagesse, cette voix qui interpelle, elle est la parole bienveillante de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette parole faite chair. Paul dira lui-même, tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est cette voix de Christ qui nous interpelle et qui nous appelle à orienter nos regards vers lui. En lui, nous dit Paul encore dans Colossiens 2:3, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. La voix bienfaisante de Dieu, elle s'entend dans la personne de Christ. Je trouve beau aussi, je voudrais juste le soulever, c'est que on voit qu'il y a de la joie. On voit qu'il y a du plaisir. Non pas le plaisir éphémère de tout à l'heure, mais un plaisir qui dure. On voit là, il parle même de jouer. On voit que la sagesse d'écouter la voix de Dieu, c'est la gloire de Dieu, c'est la joie de Dieu. C'est tout le contraste avec le plaisir individuel, personnel, orgueilleux, proposé par cette femme adultère du chapitre 7. Et enfin, on retrouve cette interpellation. Écoutez, mes amis, cette voix, versets 32 à 36. Cette sagesse interpelle, elle fait écho à celui du Père, elle offre encore appel. Écoutez-la. Écoutez cette sagesse. Écoutez l'instruction. Verset 35. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie et a obtenu la faveur de l'Éternel. C'est tout le contraste avec le chapitre 7. J'ai apprécié de préparer cela parce qu'on voit ces deux voix tellement différentes, avec des bénédictions tellement différentes. Cette voix de la sagesse promet la joie, le bonheur à celui qui veille à ses portes, qui se tient fidèle devant l'entrée de sa maison. Il accorde la vie, la faveur divine à celui qui la trouve, mais réserve une perte, la mort, à celui qui ne fait aucun cas de cette sagesse. Celui qui me trouve a trouvé la vie, dit la sagesse. Celui qui me trouve, c'est Christ qui dit ça, a trouvé la vie. On peut appliquer les deux derniers versets à Christ. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Tous ceux qui me détestent aiment la mort. Ceux qui refusent Christ ne trouvent que la mort, ne trouvent qu'une voie sans issue. C'est pour ça que Jacques nous interpelle, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et qu'il donne à tous simplement, sans faire de reproche, et à lui sera donné. Je me suis posé la question, dans quel domaine avons-nous besoin d'écouter cette sagesse de Dieu? Je pense dans chaque aspect de notre vie, bien évidemment. On voit dans ces deux chapitres cette invitation à s'appuyer sur la sagesse de Dieu, à l'écouter, à la méditer, à l'attacher sur nos cœurs. Je vous rappelle mon petit résumé, c'est garde-toi de la voix sans issue et écoute la voix bienfaisante de Dieu. Alors j'aimerais nous laisser peut-être trois interpellations pour nous aiguiller peut-être de façon peut-être plus pratique. D'ailleurs, à ces deux chapitres, mais peut-être à toute cette introduction des proverbes. Premier, c'est avant tout, gardez-vous de l'orgueil. Alors vous allez me dire, il est où le rapport? Cet orgueil existe dans notre cœur. Cet orgueil nous rend satisfaits de nous-mêmes. On se trouve bien tel qu'on est. Celui qui est orgueilleux ferme ses oreilles aux avertissements, repousse, bien sûr, l'évangile et la proposition de Christ. En fait, l'orgueil, c'est résister au conseil bienveillant de Dieu. Alors que les proverbes, on l'a vu, c'était une interpellation, une exhortation. Écoutez les conseils, prêtez attention à ce qu'on nous dit. Prêtez attention à ce que nous disent les autres générations, l'expérience de nos aînés. Écoutez à la parole de Dieu. Mais en fait, refuser ça, c'est d'être orgueilleux. Gardez-vous de l'orgueil. Ne croyons pas n'avoir pas besoin d'instruction, au contraire. Nous avons besoin de conseils, nous avons besoin d'exhorter. Nous ne savons pas tout, nous ne comprenons pas tout. Ne soyons pas indépendants, n'obéissons pas à nos caprices. Ne nous appuyons pas sur nos capacités, sur notre force, sur notre extérieur, sur nos habiletés, sur nos dons. Mes amis, ne méprisons pas les conseils de Dieu. Soyons toujours, on pourrait dire, des écoliers à l'école de la voix de Dieu, à l'école de la grâce. Et l'Écriture va mettre à de nombreuses reprises cette attitude humble d'écouter Dieu, d'écouter son frère et sa sœur. Et on a un exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Alors si nous voulons être sages, si nous voulons écouter Dieu, nous devons nous garder de l'orgueil. Deuxième exhortation qu'on trouve, c'est tenez-vous en garde contre l'amour du plaisir. Le monde, on est dans un monde qui offre quantité de passion, d'amour, d'ersatz, de palliatif à ce que Dieu voudrait nous offrir. Et le temps nous manque ce matin pour nous parler de tout cela. D'ailleurs, de ce que nous offre ce monde et qui, en fait, au final, va être amer. L'amour des plaisirs. Tenons-nous sur nos gardes. Si nous nous attachons aux plaisirs de la terre, ce sont des choses qui vont tuer notre âme, nous dit la parole. Galates nous dit ceci, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. » C'est quoi qui alimente notre vie? Les plaisirs terrestres sont vides, sont vains et ne satisferont jamais. Votre cœur ne sera jamais satisfait. Alors fuyons, un peu comme ce jeune homme aurait dû faire. Il aurait dû fuir les occasions qui peuvent nous faire tomber. Fuyons les mauvais compagnons, fuyons les lieux qui nous exposent à des tentations, fuyons les pensées qui nous éloignent de la parole de Dieu, résistons. Demandons au Seigneur de nous aider à voir ce qui nous attire loin de lui, ce qui nourrit un amour qui est détaché de l'amour de Dieu. Parce que cela ne nous satisfera jamais nos cœurs. Il y aura toujours une place vide que Dieu seul peut remplir. Et Salomon, cet homme sage, en a fait l'expérience et on lit simplement Ecclésiaste, où il a joui de tous les plaisirs de la terre et il a vu que c'était qu'une vaine apparence, que tout était vain, qu'était tourment d'esprit. Il parle même de sépulture, de mort. C'était peut-être agréable à la vue, mais ça a conduit à la mort. Fuyons les plaisirs du monde. Et puis en troisièmement, il n'y a rien de plus important, c'est de chercher à croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Chercher à connaître cette sagesse de Dieu. Cette connaissance, cette sagesse, ces avertissements qu'on trouve dans le livre des Proverbes. On pourrait dire, si on suit ces proverbes, ces maximes, ces interpellations, ils sont vains s'ils sont vécus sans Christ. Parce que Christ est là, la pierre angulaire à notre vie. Puissions-nous dire de Dieu qu'il est notre paix, notre force, notre vie, notre consolation, notre médecin, notre berger, notre sauveur, notre Dieu. En lui seul se trouve l'abondance dont notre cœur a besoin. Jésus-Christ est le trésor de nos âmes, si je reprends le vocabulaire de ces proverbes. Allons vers lui, allons le consulter. La parole de Dieu est claire, il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui. Il connaît nos cœurs, il connaît nos épreuves, il connaît nos tentations. Il connaît nos difficultés, il connaît nos ennemis. Cherchez à croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.